Par cette révélation, Dieu s'est fait connaître, ou il s'est donné à voir. Mais dans cette révélation, c'est dévoilement de lui-même et pour lui-même. Il n'est pas question que le destinataire reste passif, comme si on était devant la télé. Les buts les plus essentiels de ces dévoilements est de créer une relation avec ceux à qui il se donne à voir, ou se révèle, si vous voulez. Dans cette configuration, donc, du dévoilement, il est proposé à l'homme de devenir partenaire, pas seulement observateur ou spectateur. Et vous avez une phrase de l'Évangile de Jean, justement, qui dit ça, c'est très bien, qui dit ça très bien. Quel type de relation ? Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qui fait le maître. Je vous appelle des amis, car je vous ai communiqué tout ce que j'ai entendu à mon Père. Jean 15, 15. Donc on passe à une relation d'amis. Ou bien, dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1, « Regardez quel cadeau magnifique nous a fait le Père, que nous nous appelions enfants de Dieu, et en plus, nous le sommes. » Il est évident que tout cela ne peut être que le fruit d'un don. Quand nous sommes des créatures, et en plus, comme nous les avons, même si nous ne l'admettons pas souvent, nous ne sommes ni très fiables, ni très crédibles. Cette dimension de la relation est particulièrement importante, d'autant plus que nous ne sommes pas dans le registre de vérité à croire, mais dans le registre d'une relation filiale. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette révélation? Un point essentiel qui a été bien remis en valeur par le Concile Vatican II, c'est que pour les chrétiens, cette manifestation de Dieu s'est faite dans l'histoire. Et, d'une certaine façon, par l'histoire aussi. Cette dimension ne disparaît pas dans d'autres religions, ne disparaît pas complètement. Il est évident que Mahom et le Bouddha, ils sont nés quelque part à un certain moment et on les situe. Donc, on est de ce point de vue dans l'histoire aussi. Mais, dans le cas de l'islam, par exemple, ce n'est pas la vie, l'histoire du peuple arabe qui est manifestation de Dieu. Et ce qui constitue la manifestation de Dieu, c'est la dictée des vérités et des normes à suivre. Et non pas, bon, par exemple, l'article essentiel de la foi d'Israël, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir de l'esclavage de l'Égypte ». Tout ça, c'est pas une blague. Et c'est une action historique de Dieu. Cette libération de l'esclavage qui est la base de la relation de tout l'Ancien Testament. Ou en tout cas, dans d'autres traditions, ça sera David, mais en fait, on est toujours dans le domaine de l'histoire. C'est à partir de l'action des dieux dans l'histoire des hommes qu'on connaît Dieu et qu'on doit établir une relation avec Dieu. Et dans la Torah, par exemple, vous avez le décalogue, le célèbre décalogue. « Je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, du pays de l'esclavage. » C'est pourquoi, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu, deuxièmement, troisièmement, Donc, et ça, c'est quand même une nouveauté absolue par rapport au Proche-Orient. Les codes, des lois. Si vous voulez, vous pouvez aller au Louvre et vous verrez le célèbre code d'Hammurabi. Je crois qu'il doit avoir au moins 5 mètres de haut. Il a gravé en assyrien, bien entendu. Les lois que ce roi, vers 1700 avant Jésus-Christ, a ramassé, coordonné, etc. Mais c'est le roi qui fait la loi et qui dicte la loi. Mais en Israël, non. En Israël, il y a au-dessus du roi, une autre instance qui va permettre justement de juger et de critiquer l'instance politique. D'où les prophètes, ils ne s'en priveront pas, croyez-moi. Avec le respect qu'il se doit, c'est-à-dire en tirant à la Kalachnikov, même si elle n'existait pas encore. Donc là, c'est... Donc, c'est l'histoire qui est le terrain dans lequel Dieu se manifeste et dans lequel les humains connaissent et établissent une relation avec Dieu. Et ceci devient encore, bien entendu, plus décisif et plus extraordinaire parce qu'avec Jésus-Christ. Jésus est quelqu'un situable dans l'histoire, n'en déplaise aux camarades Onfray. Ça, je laisse tous les pépettes qu'il gagne pour ses banjons, mais la réalité historique de Jésus de Nazareth, pour quelqu'un qui a un peu de bon sens et pas de la mauvaise foi, aujourd'hui, croyant ou pas, c'est évident. Et c'est quelqu'un, Jésus de Nazareth, un village de rien du tout. Non, c'est pas non plus... indépendamment de la foi qu'on peut avoir en lui ou pas, en Jésus-Christ, c'est Jésus qui est le médiateur de cette révélation pour les chrétiens. Les chrétiens ont ces personnages historiques en chair et en os, Mort sur une croix, ce qui n'est pas très glorieux, avouons-le, qui constitue le passage indispensable pour aller vers Dieu. Et en même temps, cette personne elle-même est l'objet même de cette révélation. C'est que le croyant chrétien accepte, en premier, c'est à quoi il adhère. C'est d'abord une personne. Une personne. Jésus de Nazareth, qu'il prend et accepte comme Messie et Fils de Dieu. Comme la personne, enfin, comme l'être qui donne sens à l'homme et qui est même le sens de l'homme. Cette personne qui constitue le sens de la foi chrétienne est une réalité historique incontournable. Bon, je ne reviens pas sur Salamito et tout ça. Bon, mais cette personne, Jésus de Nazareth, apparaît à un moment donné de l'histoire. Il est né en moins 4, il est mort en 33. Et dans ce lieu particulier, c'est ce que je dis souvent, imaginez-vous, quelle est l'humilité des dieux qu'au lieu de se faire basque, quand il est venu sur terre, il est allé chez les juifs. Ben, il faut le faire quand même. Hein. Comme preuve de son humilité, on fait rarement mieux. Non. Ben oui, effectivement, il est juif. Comme on racontait aussi quelqu'un qui a été... Enfin, c'est quelqu'un qui est actuellement évêque auxiliaire de l'évêque de Marseille, Aveline, et il faisait il est très branché sur l'interreligieux, etc. Il faisait une fois une causerie, et il insistait sur le fait que Jésus est juif. Bon. Insister, et à la fin, il y a quelqu'un qui est là, écoutez, oui, d'accord, bon, très bien, Jésus est juif, mais pas Marie. Je trouve ça excellent. Enfin. Qui dit histoire, dit une successivité de faits, d'événements, d'hommes, avant lui et après lui. Il y a un avant et un après. Pour les chrétiens, c'est la Bible qui montre les traces de cette découverte progressive des dieux faits par les hommes. Découverte progressive et parfois chaotique. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dans la Bible, ce n'est pas forcément positif. Il y a des choses qui nous montrent justement des voies de garage. Cela dit, il ne faut pas prendre la Bible, encore une fois, comme un livre de recettes. Et les sommets de ces découvertes, dans le sens positif ou négatif, pour les chrétiens, n'est autre que la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Ensuite, les déploiements de toute la virtualité que ces événements ont eue. Cette progressivité apparaît de façon éclatante dans la Bible. Pensons par exemple aux images de Dieu, les dieux guerriers. On a du mal à l'accepter. Par exemple, il y a un truc. Je me suis battu contre, mais c'est un peu comme pour le changement climatique. Vous pouvez vous battre, mais enfin, pour l'instant, ça chauffe. Bon. Vous avez une expression archi-classique, je crois que c'est 280 fois qui apparaît dans l'Ancien Testament. Les seigneurs, enfin, les dieux des armées, Yahvé, Sébaoth. Bon. Vous pouvez faire tout le filigrane que vous voudrez du point de vue linguistique, mais ça c'est traduire normalement Dieu des armées. Bon, si vous regardez dans la Bible liturgique qui a été publiée il y a 5 ou 6 ans maximum, que ce soit en espagnol ou en français, là pour les deux, vous ne trouverez pas Dieu des armées. Pourquoi ? Ça la fout mal. Ça ne se vend pas. Ça passe pas. Et on va vous sortir les principes de la traduction dynamique. C'est-à-dire, il faut traduire de telle sorte que ça correspond à la manière de voir des lecteurs, etc. Oui, mais une chose, c'est de dire qu'il faut. Ça correspond à la manière de voir des lecteurs futurs pour qu'ils comprennent. Une autre chose, c'est de cacher ce qui nous emmerde. Du coup, ils ont traduit « Dieu de l'univers ». Comment ?
Ou tout-puissant, peut-être. Non ?
Comment ?
Dieu tout-puissant, ça se rapproche plus de,
des oui, ah, Dieu de l'univers. Oui, non, mais ce qu'ils ont traduit comme ça, c'est Dieu de l'univers. C'est une occasion exceptionnelle pour dire, traduire comme il faut, Dieu des armées, faire une note courte, sobre, mais bien pensée pour dire qu'effectivement, c'est une image de Dieu et que les images de Dieu changent.
Est-ce que le Dieu de l'univers existe aussi dans la Bible ?
Non, enfin. Certains points, mais pas beaucoup, très très peu. Parce que le mot univers, c'est en plus c'est très tardif. Il y a un mot olam, bon, qui dans certains textes très tardifs doit être traduit par l'univers. Mais comme appellation, Dieu de l'univers, je ne crois pas, en tant que tel. Bon, mais ça, c'est la difficulté que nous avons à. Mais à cette époque, Dieu des armées, c'était extrêmement glorieux. C'était une façon de dire que Dieu était du côté de son peuple. Et non seulement ça, mais il y a quand même toute une conceptualisation de ça, la guerre sacrale. À ne pas confondre avec la guerre sainte. La guerre sainte, c'est quand on fait la guerre pour convertir l'autre de force à ma religion. Ça, c'est la guerre sainte. La guerre des religions, c'est que vous avez connu, enfin, que nous avons connu au XVIIe siècle. Protestants, cathos, l'empereur, le pape, je sais pas quoi, enfin, tout ces salades. Mais la guerre sacrale, c'est quand Dieu lui-même s'est mis à la tête de son peuple pour combattre les ennemis de son peuple. Et la victoire est la victoire de Dieu. À un moment, il y a un célèbre texte dans le livre des Juges. Bon, les Israélites sont en situation difficile et Dieu suscite un chef, Gédéon. Il dit, bon, tu appelles tout le peuple, etc. Et bien, ils sont 5 000 ou je ne sais pas combien. Et en face, il y en a 10 000. Et Dieu dit à Gédéon, bon, tu vas exclure de ton armée tous les blancs, ou tous les blonds d'or. On garde que le brun. Bon, ça fait quand même, il n'avait pas trop de blonds, donc ça va encore. Mais, ensuite, il y a encore trop, tu vas garder uniquement le plus de 50 ans. Bon, ça, et en plus, évidemment, une arme comme ça, c'est... Bon. Et ensuite, bon, si tu sais qu'il n'en reste que 100 ou 150, je ne sais plus combien, contre 10 000. Et le texte dit, comme ça, il sera clair que la victoire ne sera pas d'Israël, mais du Seigneur d'Israël pour son peuple. Bon, ça, c'est une réalité qui est massive dans l'Ancien Testament. Bon, comment on est passé de là à autre chose? Mais ça, il faut l'expliquer. Mais on ne peut pas camoufler que le Dieu d'Israël a été un Dieu guerrier. Ni les camoufler, ni partant de là, de dire que nous aussi, nous devons vendre des armes à l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc là, là c'est... C'est une paresse intellectuelle qui me semble très malvenue.
Bon. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que le Dieu guerrier, ce n'était pas une question historique, mais une légende, comme vous disiez la dernière fois?
Ah, tout à fait. C'est tout simplement. C'est culturel, symbolique. C'est-à-dire que les gens de cette époque, s'ils voulaient. C'est représenter Dieu, parce que de toute façon, on se les représente, hein, de telle sorte qu'il leur parle comme un Dieu qui les aide et qui les protège, bah, c'est un Dieu guerrier. Bah, et ils vont dire, et les armes de Dieu, c'est quoi? C'est l'orage, c'est la foudre, c'est le vent, évidemment. Et quand ils voient ça, que ça va en leur faveur, mais Dieu est avec nous. Et puis voilà, c'est aussi bête que ça. Mais... Et notre affaire, la résurrection de mort, bah, la première fois que c'est explicitement écrit, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Oui. Et ces textes, nous sommes certains, il doit être daté des 170 avant Jésus-Christ. Pas avant. Donc pratiquement tous les prophètes de l'Ancien Testament et tous les patriarches et tous les tralala, ils ont vécu sans la croyance, sans la foi dans la résurrection. Et pourtant, en Égypte, par exemple, il y en avait. Donc, c'est une conquête, si l'on peut dire, du point de vue du contenu de la foi, récente. Et à l'époque de Jésus, il y en avait qui ne croyaient pas à la résurrection. Par exemple, les Sadducéens, souvenez-vous de cette célèbre histoire, l'histoire de la femme à sept maris. Bon. De même, l'articulation entre la personnalité corporative et la responsabilité personnelle. Je m'explique. La personnalité corporative, c'est une manière de comprendre les uns et les autres, de se comprendre comme dans les familles, les clans, etc., tous sont touchés et impliqués par les actions des autres. Bon, par exemple, vous êtes dans votre famille et votre fils vole un bœuf. Bah, toute la famille est contaminée. Il y a une responsabilité collective. Bon, je me souviens très bien, il y a un texte extrêmement clair dans le livre de Josué, au chapitre 7. Ils sont justement en guerre. Et un des éléments de cette guerre, c'est que les butins doivent être consacrés à Dieu. Mais quelqu'un n'a pas pu résister. Il a gardé de l'or ou je ne sais pas quoi. Dans ton... Du coup, ça ne marche pas. Dieu ne les cède pas, ils perdent. Alors il dit là, il y a quelque chose qui cloche, il y a une faille dans notre comportement. Alors qui est le coupable ? Il tire au sort, etc., etc. Et puis finalement, il tombe sur un type qui avoue qu'évidemment, qu'il n'a pas pu résister, qu'il a... Bon. Alors il est condamné à mort. Lui, sa femme, ses enfants et son âne. Moi, je veux bien que la femme et les enfants y passent, mais l'âne, qu'est-ce qu'il vient foutre là, femme ? Quand même. Et vous avez la célèbre expression à l'époque de Jérémie et d'Ézéchiel, juste avant la chute de Jérusalem. Les parents ont mangé du raisin vert et les enfants payent la note du dentiste. Et les dentistes, généralement, c'est assez salé. Donc, du coup, ils disent non. Et Ézéchiel va faire tout un développement très très important. Chacun paye pour ses fautes. Si un père, etc., etc., c'était un gros salaud, etc., mais s'il a un fils qui est juste, etc., la justice du fils ne sauvera pas le père, et vice-versa. Donc, mais ça a été, Jérémie et Ézéchiel, c'est 600. Jusqu'alors, la personnalité corporative était extrêmement importante. Mais en même temps, la solution proposée par Ézéchiel est très problématique. Et quelques cent ans plus tard, le livre de Job viendra dire que moi, je suis puni. Il considère que la maladie est une punition et je ne suis pour rien. Alors donc, ton truc... La relation entre la responsabilité personnelle et les conséquences, on n'a pas fini encore de clarifier. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, moi, je ne vois toujours pas très clair. De ce point de vue, le fait que on est normalement, donc, dans l'histoire, les contacts avec d'autres civilisations et d'autres pays et d'autres est un élément absolument essentiel dans l'histoire d'Israël. Inévitable. Inévitable. Deuxième caractéristique, ça veut dire que la révélation de Dieu se réalise par des médiations. Là, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de fil rouge privé. On passe par des médiations. Par des hommes précis, par des témoignages, par des langues. Par des coutumes et surtout, bien entendu, par la médiation essentielle, Jésus-Christ, notre seul et unique médiateur, comme dit Paul. On n'est donc pas en communication directe avec Dieu, mais on passe par... Même dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas des liens directs avec Jésus-Christ, on passe par des témoins, par les évangiles, c'est quatre témoignages. irréductible à un. Et quatre évangiles qui ne sont pas interchangeables. Il y a des signes, des paroles, des faits, à travers lesquels et dans lesquels nous pouvons voir la trace de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas d'une évidence absolue, parce que sinon, la foi n'aurait pas lieu d'être. Et ça s'imposerait. Du moment où, effectivement, bon, par exemple, le fait que la plupart des Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ, etc., on peut l'interpréter de façon où bien effectivement, ça ne s'impose pas. Parce que si ça s'imposait, ça voudrait dire, deuxième solution, que ceux qui n'y croient pas sont des salauds. Donc, la dose des mauvaises foi était telle que je n'irai pas là, loin de là. Troisième caractéristique, je répète un peu, la révélation ne peut pas être conçue uniquement comme une communication intellectuelle à la raison. La raison est indispensable, mais ça ne suffit pas à la foi. Il y a un moment. Point numéro 2 du deuxième cours, présentation du Vatican II et de la Constitution de Liverpool. Bon, le Concile de Vatican II a eu lieu entre 1962 et 1965, donc il y a 60 ans. Il est le 21e Concile œcuménique, c'est-à-dire en général, et se situe dans une... dans une série de conciles tout au long de l'histoire. Le premier concile, d'ailleurs, a été convoqué par l'empereur Constantin, parce qu'il voulait mettre un peu d'ordre dans le bazar que les chrétiens avaient entre eux au niveau dogmatique. Vatican II a été convoqué par le pape Jean XXIII de façon tout à fait inattendue. C'était le 25 janvier. Il a sorti ça, tout le monde était... Moi, je me souviens, j'étais déjà au petit séminaire, une histoire, et aucun de nos profs, de nos directeurs, pouvait nous expliquer quoi que ce soit de pertinent. Enfin bon. Les différents ministères du Vatican, donc les dicastères, ont préparé, comme il se doit dans ce genre de cas, les dossiers, les documents qu'il fallait traiter par les pères conciliaires. Mais depuis longtemps déjà, les résultats et le travail au niveau de l'histoire de la liturgie, au niveau de l'histoire ou du travail biblique, par exemple, ou bien l'histoire des dogmes, enfin, ils avaient beaucoup progressé et ça avait fini par caler même, par entrer dans la tête d'un nombre restreint mais important d'évêques. Vous imaginez les temps qu'il faut pour cet exercice. On était vraiment, du point de vue de la pensée, en 50 ans, on avait récolté les résultats des travaux, des études extrêmement importants. Et... enfin, 50 ans plus tôt, la commission biblique pontificale passait son temps à condamner un tel, parce qu'il avait dit que Moïse, c'est sûr, Moïse, là, là vraiment, on n'était pas là. On n'était pas là. La situation générale aussi était assez particulière. Ça, il faut quand même tenir compte du contexte historique. C'était la fin officielle du colonialisme. 1960 a été quand même... l'élite des pauvres en Amérique latine, dont hier on a eu quand même un événement important dans la canonisation de Romero, l'archevêque de Salvador, qui a été tué par l'extrême droite, pendant qu'il disait la messe d'ailleurs. La guerre froide, on était en plein dedans. Il y avait quand même beaucoup d'évêques qui étaient à côté de la plaque, à côté de leur pont, du point de vue théologique. Enfin, je vois le mien, par exemple, voilà, c'était quelque chose. Mais il y en avait d'autres qui étaient quand même bien branchés. Et les affrontements au sein même du concile furent épiques. Par exemple, l'un d'eux, tout au début, il y avait... bon. L'Assemblée Générale, tous les évêques, les 2000, je ne sais pas combien, et la présidence, il y avait le cardinal Tisserand, qui était un évêque français, qui était donc, qui présidait la séance. Et à côté, il y avait le cardinal Liénard, archevêque de Lille, qui était là aussi. Tisserand avec une grande barbe, Liénard avec une grande gueule. Et à un moment, à la table de la présidence, bon, évidemment, ils avaient commencé à discuter des dossiers préparés par les ministères qui étaient nullissimes. Parce que c'était répété ce qu'on disait depuis. Bon. À un moment, Liénard, qui était à la droite ou à la gauche, je ne sais plus, de Tisserand, lui dit : je vais parler. Et Tisserand lui dit, je ne te donne pas la parole, donne-moi la parole, je ne te donne pas la parole, donne-moi la parole, je ne peux pas te donner la parole. Alors l'autre, il s'est levé, il a pris le micro, il a dit ça. Ces textes ne veulent pas une beignée de pommes. Bon, c'est de la crotte en barre, il faut recommencer le tout. Et les soirs même, ils sont, évidemment, dans ce genre de cas, ils sont appelés à l'autorité du pape qui dit « Ah, il n'a pas tout à fait tort ». Ils ont créé des commissions pour créer des nouveaux documents qui n'ont rien à voir avec ce qui était prévu. Et du coup, le concile a pris une tournure absolument différente. C'est pour ça que c'était passionnant, je me souviens, pendant le concile, donc au séminaire, et avait un journal espagnol qui était excellent parce qu'il avait un correspondant très calé et très très bon. Il faisait des chroniques super, on suivait au jour les jours et il mettait le journal collé sur le couloir du séminaire. On avait un torticolis permanent. Mais on était vraiment branchés. Et on sentait, même si on était encore jeunes, etc., les changements. Rapidement, c'était un changement des logiciels. Par exemple, dans tous les conciles précédents jusqu'au dernier, les résolutions finales, c'était toujours pour condamner les gens qui pensaient ceci ou qui pensaient cela. Et La formule était déjà tout à fait classique. C'est lui qui dit que anathémasite, qu'il soit anathème. C'était une collection des condamnations. À Vatican II, il n'y a pas eu un seul anathémasite. C'était des propositions. Et c'était effectivement la dimension pastorale que a été vraiment mise en avant. Autrement dit, les côtés positifs. L'Église, le monde, qu'est-ce qu'on parle du monde, quel doit être le rôle de l'Église avec les autres, etc. Bon, c'est la liturgie, bon, ça, c'est... Ça a un peu obscurci ou caché tous les autres histoires, parce que la liturgie, évidemment, vous ne vous souvenez pas, mais bon, je me souviens, en fin de cœur, par exemple, dans les enterrements, il y avait 6 ou 7 messes, en même temps. Et je me souviens que servir en fin de cœur, 2 messes en même temps. Et répondre à l'un et à l'autre, en latin, bien entendu. Non, mais... La liturgie, ça a été un point le plus, disons, visible. Et puis, on est passé aux langues vulgaires, comme il disait. Langues vulgaires, en quoi ils sont plus vulgaires que les latins, mais enfin... Le concile de Trente, qui avait eu lieu entre 1545 et 1563, était une réaction à la réforme protestante. Réforme protestante dont un des éléments clés, c'était la célèbre phrase de Luther, « Scriptura sola », c'est-à-dire l'écriture seule. Et pas des traditions, pas tous les couches de calcaire qui s'étaient collées à la foi chrétienne pendant des siècles. Bon. C'était une réaction. Et c'est vrai que avec le temps, il y avait des scories assez consistantes, dont on vit encore. Il y a eu un problème qui s'est posé de façon très claire à Vatican I, donc au XIXe siècle. Est-ce que les gens peuvent arriver à la connaissance de Dieu uniquement par ses propres moyens, par ses propres forces? Mais même ça, ça a été discuté du point de vue intellectuel, du point de vue spéculatif, mais pas du tout pastoral. Donc, les changements de logiciel entre Vatican I et Vatican II a été radical dans ce sens. Ce n'est pas une affaire primordialement spéculative, mais pastorale. Comment on fait ? Mais ça a été un peu aussi ce qui a été fait, l'approche du synode sur la famille. On ne va pas aller avec une série de normes tirées, on ne sait pas très bien d'où, et coller cela, il faut partir de la réalité. C'est que les gens sont, c'est que les gens vivent. Et dans cette réalité, qu'est-ce que la parole de Dieu et la tradition dit ? Mais pas... Bon. Autrement dit, il n'y a pas eu une attitude juridique, dans le mauvais sens du terme, juridique du Concile Vatican II. Ça a été une attitude, une approche pastorale. Il y a eu donc la constitution sur la liturgie.
Oui. un excès de transposition, mais est-ce qu'on peut dire que finalement, l'islam ne fait que des transpositions juridiques des textes ?
Que l'islam ?
L'islam ne fait que des transpositions juridiques des textes, finalement.
Bon, je ne connais pas l'islam suffisamment pour mais lancer cette simulation, mais c'est assez vrai. Et là, ils sont, de ce point de vue, l'islam, au même point, si l'on peut dire, que nous, on était au 19e siècle par rapport à l'histoire, parce que le Coran a une histoire. Mais, officiellement, on ne le reconnaît pas. Et populairement, c'est l'ange Gabriel qui aurait dicté ce qui, ça ne tient pas une seconde quand on connaît l'histoire du Coran. Mais ça, il faut qu'on l'enseigne aussi. Bon, il y a... Moi, j'ai vu ça, une émission à la télé, il y a déjà quelques années, où il racontait qu'il y avait eu au Yémen, il y avait une maison qui s'était effondrée, je ne sais pas quoi, et ils avaient trouvé dans les décombres qui étaient dans le grenier ou je ne sais pas quoi, des exemplaires du Coran avec une calligraphie différente de celle qu'on a maintenant et un texte différent aussi, avec des variantes importante. Bon, à partir de là, ils avaient travaillé, etc., etc. Et ils arrivaient à la conclusion, effectivement, avec ça, plus d'autres choses, qu'il n'y a pas eu, comme on prétend au début, un texte écrit par Mahomet, etc., et qu'après... ça s'est transmis comme c'est comme ça, mais qu'au début, il y a eu plusieurs variantes du Coran, plusieurs éditions différentes. À tel point qu'ils se sont tapés sur la gueule entre eux à cause de ça. Il y a eu des guerres jusqu'au moment où un calife ou un sultan, je ne sais plus, a eu marre et a demandé à collectionner toutes les témoin du Coran, choisit un et brûlait le reste. C'est ce qu'ils avaient fait dans le monde juif. Hein. Il ne faut pas rêver. Mais il y a toujours quelqu'un de peu tordu qui a caché son Coran dans son grenier et puis maintenant, il sort. Donc, mais ça enfin, au niveau des intellectuels, il commence à... Mais de façon plus générale, bon, je sais que ce que je dis là, c'est une connerie, mais bon, à une près. Mais pour moi, ce que Mahomet a fait a été essentiellement l'unification au niveau d'un seul Dieu. Parce que tous les tribus arabes, etc., il y en avait, chacun avait leur... il y avait même... Allah avait une copine, évidemment. Donc, mais là, si vous dites ça, vous risquez d'être brûlé publiquement. Donc, et ce qu'il a fait, c'est la réunification au niveau religieux. Mais pour le reste, tous les observances et les règles, etc., ce sont des règles des nomades arabes de l'époque. Qu'il a traduit comme ça. Bon, donc là, maintenant, essayez de vivre avec ça. Bon, et ensuite, il y a la question des hadiths. Alors là, ils disent oui, ils ne sont pas tout à fait fiables, etc. Alors là, ben, une critique de ces hadiths, ben, je ne vous dis pas. Mais même au niveau les plus... il y a un prof actuellement au Collège de France qui est il a sorti un livre cette année au mois de mai je crois une amie à moi qui a fait sa recension m'a demandé un certain nombre de points, pas sur l'islam, mais sur le, c'est un livre sur le schisme. Mais la dimension des critiques historiques du texte, ça lui est absolument étrangère. Tandis que pour nous, c'est le béaba. Donc là, ils ont beaucoup de terrain à gagner. Bon, j'arrête, parce que je vois que vous allez dormir ou tomber raide. C'est pas l'intention. Thank you.